et à tous.
J'ai vu que certains avaient été offusqués qu'on dise frères. Mais quand Paul dit les frères, les sœurs sont comprises. Voilà, j'ai même ma montre ici parce que je ne voudrais pas dépasser le temps. Voilà. C'est très pratique ce pupitre avec des trous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, oui, dans Acte 2, pour ceux qui ont leur Bible, ouvrez-les. Et ceux qui ne les ont pas, qui prennent des notes, j'essaierai de, si vous ne comprenez pas bien les références que je vais vous donner, levez la main, je la répéterai, parce que j'en ai un certain nombre. Alors, nous représentons ici différentes communautés, différentes traditions, et je crois que ce qui compte, c'est de briller là où nous sommes. C'est ce que le Seigneur nous a demandé à tous, c'est de briller, nous devons briller, être des témoins, être des témoignages pour les autres, pour nos contemporains. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, oui, j'ai dit que je vous donnerai beaucoup de références bibliques. Pourquoi ? Parce que je me suis fait un petit rond avec une source en bleu. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu penses que l'eau du fier est pure ? Ben, j'ai dit, elle est pure, l'eau du fier est pure, oui, dans une certaine mesure. Tout dépend ce qui se déverse dedans, et quels sont les différents affluents qui arrivent dedans. Parce que si tu veux, vraiment, l'eau du fier, l'origine, il faut que tu remontes, il faut remonter à la source, c'est-à-dire au pied du Mont Charvin, quoi, hein. C'est celle-là où la source du fier commence. Donc là, elle est pure. Après, je ne donne aucune garantie. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Donc la source, eh bien, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors, avant d'aborder le sujet, je voudrais de parler de la vie et de la mort. Je voudrais vous parler de ma naissance. Pas en 1945. Maintenant, vous savez tout. Hein. Je suis né beaucoup plus tard. Et cela s'est passé à une période de ma vie qui était très perturbée. Perturbée et même misérable. Je dirais tout allait de travers. Alors, comme j'étais une personnalité de caractère, eh bien, je me mettais facilement en colère. Je repoussais la faute à mon environnement. C'était la faute de ma femme, bien sûr. C'était la faute des enfants. C'était la faute de mon patron, de la société, et ça, on est des champions pour ça. Et puis, c'était toujours les autres, vous savez, c'est les autres. Quand les choses ne vont pas, c'est toujours les autres. Alors, j'étais très engagé socialement dans la vie courante, et j'étais parfois très associable. Alors, je donnais ma vie totale pour les autres. Mais ma propre vie ressemblait souvent à de la misère et de la mort. Comme je disais, j'étais coléreux, je fumais, je sortais beaucoup avec mes amis, on allait au bistrot, on avait des jeux, etc. Et puis la famille, ben, femme, tu t'occupes des enfants. Voilà. Alors c'était pas très bien. Et puis le Seigneur m'a rencontré et l'Évangile a beaucoup modifié ma vie. Elle m'a montré que mon engagement répondait certes à des besoins de la société, des hommes, des femmes de ce monde, mais des besoins on peut en trouver, hein. Vous allez juste lever la main à dire qui veut gagner plus de 2000 euros, vous allez voir, vous allez être très populaire et vous allez avoir beaucoup de monde derrière vous, hein. Voilà, ça c'est pas trop difficile, mais j'ai aussi pris conscience que ce que je faisais, dans ce que je faisais, il n'y avait rien pour dans mon engagement, il n'y avait rien pour, il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait pas de racines. Il n'y avait rien pour l'homme intérieur, il n'y avait rien pour l'homme dans la détresse, il n'y avait rien pour le changement du cœur, il n'y avait rien pour l'âme fatiguée, il n'y avait rien pour la personne qui est malade, en conflit avec elle-même, la personne qui est, comme vous savez, on ressent du mal-être. Je n'avais pas de solution pour ces choses, rien pour les conflits familiaux, je n'avais rien. Et rien non plus pour la réconciliation des hommes. Et j'ai découvert que l'Évangile répondait à cela déjà pour moi-même, donc c'était déjà un grand pas. Et un grand changement qui commence par le cœur. Le Seigneur n'est pas limité, il peut guérir le corps, mais il commence souvent par guérir le cœur. C'est par là que tout commence, parce que c'est du cœur que viennent beaucoup de choses. Les sources de la vie, dit un proverbe. Alors, le Seigneur a recentré ma vie familiale également. Et il m'a béni professionnellement. Je dirais que j'ai été très béni et j'ai pu expérimenter la vie selon Deutéronome 28, verset 8, 28, 8, où il est question de la bénédiction, mais on ne peut pas l'arracher, cette bénédiction. C'est Dieu qui la donne. Et là, il est dit précisément que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est très intéressant de voir que c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction d'être avec nous. Ça, c'est un point qui est très important pour notre vie. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi, il t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Et ça, c'est maintenant. J'ai pris conscience que ça, c'est maintenant. Je peux l'acquérir maintenant. C'est pas pour après, hein, la mort, c'est maintenant. Et ça, c'était un point important qui a bouleversé ma vie. Voilà un petit peu pour situer l'individu à qui vous avez affaire aujourd'hui. J'ai appris aussi que la parole de Dieu, la Bible, la parole, est vraiment la parole inspirée de Dieu. C'est pas un livre ordinaire, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un conte, c'est pas... certes, ce sont des livres historiques, mais c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui n'est pas commun. Et nous savons que la Bible est le livre le plus lu au monde. Si je regarde juste que ce qu'a dit le prophète Ésaïe, combien, 7 siècles et demi avant Jésus-Christ, comment il a décrit comment Jésus allait arriver, comment il allait être méprisé, rejeté par les hommes, incompris, rejeté, puis ensuite mourir sur une croix, ses souffrances. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un prophète, si ce n'était pas l'inspiration de Dieu, puisse d'écrire Ésaïe 53, je vous recommande de le lire, vraiment c'est quelque chose de merveilleux et de magnifique. Ésaïe 53, je ne vais pas le lire parce qu'on n'a pas le temps. Alors, j'ai oublié de remercier, je vois que j'ai noté là, avant de passer au sujet, j'ai oublié de remercier d'abord l'église réformée qui m'a invité, mais aussi de remercier l'équipe d'intendance. Je ne sais pas s'ils sont présents ici, mais vous transmettrez. Vraiment, les repas sont excellents, sont d'une... varié et d'une saveur extraordinaire, d'une grande diversité. Je pense là... Oui, on peut applaudir l'équipe d'intendance. Très bien. Alors, je vous propose, de, pour ceux qui ont leur Bible, de la prendre. Je vais vous lire quelques versets dans Actes 2, verset 22, Actes 2, 22. Donc, cela se passe juste après la Pentecôte, et Pierre... qui peu de temps avant avait renié le Seigneur en disant, le Seigneur, ah non, je ne connais pas. Et tu étais avec lui, toi? Non, non, je ne connais pas. Ça, c'est aussi du domaine du miracle. Hein. Pierre a été visité par Dieu pour être combien? 40 jours après, 45 jours. Être l'homme qu'il est et pouvoir prononcer un tel discours après la Pentecôte. Je vais résumer. Au verset 22, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré, selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. » On a beaucoup parlé d'espérance ces jours derniers. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Très rapidement, dans ce texte, on voit deux choses déjà. C'est qu'il y a deux types de morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle au niveau de l'âme. On y reviendra un peu plus tard. Alors, Dieu, je retiendrai l'essentiel, la colonne vertébrale de ce verset, de ce passage, pour moi, qui est Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Nous sommes de passage, chacun le sait, nous en avons beaucoup parlé ces jours derniers, et nous passons comme une fleur qui fane très vite. La vie, c'est vrai que la vie passe très vite. Mais notre cité, ici-bas, est provisoire. Elle n'est pas définitive. Et nous cherchons celle qui est définitive. Celle qui est, selon Hébreux 11, verset 13, je ne lis pas tout parce qu'on ne va pas y arriver sinon, Après, il y a des choses, sans les avoir vues de nos yeux, dont nous en avons la certitude dans notre cœur. Nous savons, pertinemment, intimement, nous savons qu'il y a autre chose. 1 Pierre 4 nous dit, 1 Pierre 1, verset 4, pardon, nous dit, nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Rien qu'avec ce verset, on pourrait faire plusieurs prédications. Ce qui est contenu là-dedans, c'est extraordinaire. C'est donc un mystère que d'être gardé par la foi, la puissance de Dieu. Et on ne sait pas l'expliquer. Alors pour entrer, pour nous immerger dans la parole de Dieu. J'étais déçu de ne pas être là mercredi, il y avait Nicole Fabre, que j'apprécie beaucoup. Et c'est elle qui avait dit une fois une pastorale que nous avions organisée dans notre église à Métay, une pastorale régionale où elle était là. Elle avait dit pour apprécier, pour nous imprégner de la parole de Dieu, pour entrer dedans, il faut oublier ce que nous avons appris. Et cela est vrai. Donc pour nous immerger dans cette parole, il faut oublier ce que nous avons appris. Oublier notre culture personnelle, oublier notre arrière-plan philosophique, politique, religieux, etc. Parce que nous avons un filtre. Nous avons un filtre dans notre inconscient qui rejette systématiquement tout ce que le Seigneur voudrait nous enseigner. Alors, il faut que nous soyons méfiants de nous-mêmes d'abord. Alors, c'est la connaissance de Jésus-Christ qui ouvre la compréhension. Ce n'est pas la connaissance qui remplit le crâne. Non, c'est la connaissance qui remplit le cœur. Parce que ce sont deux choses complètement différentes. Jésus peut parler au cœur, à un alphabet, à quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Et il parle au cœur. Je pensais à cette histoire qu'on m'avait racontée il y a très longtemps, de non-voyants. On avait emmené des non-voyants à un zoo. Alors si ce sont des non-voyants qui l'ont été accidentellement, ils ont déjà vu auparavant, donc ils ont une idée de la vie et des choses. Mais là, c'était des non-voyants de naissance. Et on les a emmenés au zoo et on leur a dit, approchez-vous, il y a un éléphant, approchez-vous. Alors ils ont touché l'éléphant. Alors chacun a touché la partie qui était la plus proche, ils ont tâtonné, ils ont apprécié, etc. Et ils sont repartis en voiture. Et voilà, dans la voiture, ils se sont disputés. Parce qu'il y en a un qui a dit, oh, un éléphant, c'est un gros ballon. Et l'autre a dit, mais attends, t'as rien vu? Mais non, c'est une grande trompe. Et l'autre a dit, mais attends, vous avez rien vu du tout, c'est une grosse jambe. Et l'autre a dit, non, c'est une défense. Et ils se sont chamaillés tout le long du chemin comme ça. Et ça fait penser un peu aux chrétiens qui disent, non, mais pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une vision partielle. Une révélation partielle de qui est Dieu et de qui est Jésus-Christ. Nous n'avons pas une vision globale. On n'a pas le temps de le prendre, mais je pense à Jean, l'apôtre Jean, qui dans son âge avancé va, pas par hasard, sur l'île de Patmos. Et là, il a vécu avec le Seigneur pendant 3 ans. Il était un intime, le plus intime. Il a même dit que Jean dormait sur la poitrine du Seigneur. Quel privilège, hein ? Il écoutait les battements de son cœur. C'est quelque chose de très, très profond, très intime. Et ce Jean va se retrouver sur l'île de Patmos, et il dit, je suis là, c'est Apocalypse 1, vous pourrez le lire, il dit, je suis là, ben, à cause du Seigneur, parce que je me suis laissé conduire. Et on ne lit pas auparavant que Jean ait prié, que Jean ait fait des études bibliques, j'ai pas fait pas en faire, pour recevoir une révélation de Jésus-Christ, qu'est-ce que serait l'Apocalypse? Mais qu'est-ce qu'on voit à travers cela? On voit un homme, Jean, qui est disposé. Et cela compte beaucoup. Parce que nous recevons selon notre foi, et Jean qui est un homme très disposé. Disposé et disponible. Seigneur, comme tu veux, quand tu veux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé cet homme pour lui révéler l'Apocalypse. Et bien qu'ayant vécu pendant 4 ans avec le Seigneur, il va dire, il est tombé mort lorsque le Seigneur s'est révélé. Il a vu ses yeux comme des flammes de feu. Il l'a vu vêtu de blanc comme de la neige. Il n'avait jamais connu le Seigneur dans cette dimension-là. Ayant vécu 3 ans avec lui, alors nous, qui Qui sommes-nous par rapport à Jean? Nous avons tout à apprendre. La vie et la mort, j'y viens. La mort physique nous angoisse. Et on voudrait l'ignorer, on l'a entendu hier. Hein. On voudrait la fuir, on voudrait l'éviter, la repousser. Cependant, elle ouvre une porte sur l'autre vie, sur la vie éternelle. Et Jean a dit aussi, hein, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne produira pas de fruits. Alors Jésus nous dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Ah, Jésus est rabat-joie? Non, pas du tout. Jésus a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parfois c'est difficile, hein. Il y a des épreuves, il y a des échéances, il y a un certain nombre de choses qui font qu'on n'est pas toujours réjoui. Hein. Mais il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que si on se met dans la tête que ce qui nous arrive, le Seigneur est au courant, il le sait. Parfois c'est lourd, mais il le sait. Et il est avec nous, à un moment donné, dans l'évangile de Marc, vous pourrez lire, Marc 6. Jésus renvoie les disciples sur la barque, et ils râlent. Et c'est difficile, Jésus, et ils ne savent pas, Jésus est sur le bord, il a dit que Jésus prie pour eux. Pourquoi? Il fallait qu'ils passent cette épreuve. Je m'arrête, je ne vais pas me disperser. Alors Jésus n'est pas rabat-joie du tout. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans une maison de fête, on est joyeux, on est heureux, on partage, on fait connaissance, on prend des gâteaux, etc. On ne pense pas à l'avenir. On ne pense pas à ce qui va se passer demain, on est dans la joie, tout va bien. Dans une maison de deuil, on peut être amené à se poser des questions. Tiens, c'est peut-être bientôt mon tour. Ou je vais me retrouver seul. Peut-être qu'on se pose des questions sur le bien et le mal que l'on a fait. Peut-être qu'il y a des personnes qu'on évite sur le trottoir, notre jeune âge. Il y a peut-être eu des histoires avec ces gens et on les évite. Dans une maison de deuil, on pense à l'avenir. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut dire. Alors Jésus est mort et ressuscité. La mort ne pouvait pas le retenir. Le diable a tout mis en œuvre pour faire mourir Jésus. Mais il ne savait pas qu'il ressusciterait. Cela ne lui a pas été révélé. Alors il est question de deux morts. La mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est celle du corps, qui va retourner d'où elle vient, c'est-à-dire à la poussière. Et puis la mort spirituelle, c'est celle de l'âme, qui va vivre éternellement. Alors, Hébreux 10, 19, nous dit que la mort de Jésus-Christ a ouvert un chemin. Il est dit précisément, Hébreux 10, 19, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Christ, un libre accès dans le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu très saint, où autrefois le sacrificateur, le souverain sacrificateur venait une fois par an, le lieu très saint, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. » Il y a de quoi méditer, hein, frères et sœurs. Il y a de quoi travailler, réfléchir là-dessus, hein. Au moyen de son sang, il nous a frayé une route dans le sanctuaire, c'est-à-dire une relation directe avec Dieu, à travers son sacrifice, qu'il a inauguré pour nous à travers le voile. Le voile, on y reviendra un peu plus tard. Alors, pour renaître, il faut mourir. On voudrait tous renaître sans mourir. Ben non. Alors Nicodème n'avait pas compris cela. Jésus lui a dit, non, mais il faut naître de nouveau. Nicodème a dit, mais comment est-ce qu'un homme vieux peut rentrer et retourner dans le ventre de sa mère? Et Jésus va insister au verset 5 de... Je ne vous ai pas donné, hein? Jean 3, pardon. Jean 3, verset 5, il va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau ici, c'est l'eau de la parole, hein? Et l'esprit, j'ai pas besoin de vous décrire. Alors Nicodème restera fidèle à Jésus. Il est venu le voir de nuit. Il va rester fidèle à Jésus, il va même le défendre au moment de son procès, devant les souverains sacrificateurs, et il va même participer, c'est même lui qui va apporter les différents ingrédients pour embaumer le Seigneur. Là, Dieu l'a vu à sa manière. Alors la mort est un processus de transformation. Conduit à la vie. Si vous prenez une chrysalide, soit qu'elle est accrochée sur un brin d'herbe ou collée à une fenêtre, ou vous la trouvez dans la terre, je pense que celles qui sont en terre génèrent des chenilles, et celles qui sont à l'air génèrent des papillons. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais la chrysalide est quelque chose d'inerte, sans vie apparemment. Elle va donner un beau papillon multicolore. Et notre mort en Christ, c'est cette transformation-là. C'est le changement de nature. La vie nouvelle est animée par Christ. Alors toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit Paul, dans 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Nous avons encore du travail. Moi le premier. Donc je disais que la vie est transformée en Christ. Les réactions, l'impatience, la jalousie, la colère, l'impureté, l'adultère. Sujet de colère, je vais apporter une précision. Il ne faut pas confondre la sainte colère de Jésus et notre colère brute. Il y a une nuance. Jésus avait une sainte colère qui s'exprime, si on recherche la racine, par une compassion extrême. Ce n'est pas une colère explosive. Parce que si je corrige mon enfant dans la colère, je lui fais des piqûres de colère. Il va en hériter. Mais je dois corriger mon enfant dans la grâce. Ça n'empêche pas d'avoir de l'autorité. Alors, parce que Paul dit dans 1 Timothée 2,8, il dit que quand vous priez, élevez des mains pures sans colère. Je reviens à mon propos, donc je disais que nous sommes transformés, que ce soit la colère, la jalousie, l'impureté, l'adultère, etc. Et cela est acquis par le sang de Christ. Nous n'avons aucun mérite dans cette affaire. Aucun. Si on avait un mérite pour nous transformer, eh bien le sacrifice de Christ serait inutile. Il serait vain. Il est acquis par la mort de Christ. Hébreux 2, 14 nous dit, ça c'est intéressant, Hébreux 2, 14, afin que par la mort, il, Jésus-Christ, rende impuissant celui qui avait par la puissance de la mort, la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Satan était un ange, mais qui s'est révolté. Et sa rébellion contre Dieu, à cause de son orgueil, l'a fait précipiter et jeter sur la terre. Alors la mort de Jésus génère la vie. Dans Matthieu 27, 50, vous le lirez, je vous donne juste la chronologie. Matthieu 27, 50 à 54, qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus meurt sur la croix? Le voile du temple se déchire, comment? Merci, de haut en bas. Ce n'est pas un homme qui a déchiré le voile. C'est déchiré de haut en bas. Et on le retrouve dans Hébreux 10. C'est là où il a frayé la route. C'est à cause de sa souffrance, de son sacrifice, de sa mort sur la croix, que ce voile s'est ouvert et nous donne accès à une autre dimension. Hébreux 10. La route nouvelle dont on a parlé tout à l'heure. La terre tremble. Les rochers se fondirent. Le rocher, c'est dur. Hein. Le cœur de l'âme aussi, hein. Il faut qu'il se brise. Les sépulcres s'ouvrirent, les morts ressuscitèrent. Ceux qui étaient là furent saisis de frayeur et dirent, assurément, c'était le Fils de Dieu. Voyez-vous, une frayeur qui va transmettre la foi à ces soldats romains. C'est extraordinaire, hein? Dieu utilise tout. Le chemin du ciel passe par la croix, le lieu où l'homme dépose ce qui l'empêche d'accéder à la vie. Il n'y a pas de résurrection sans mort, et nous avons du mal à comprendre cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous voulons tout expliquer. Et avec notre grand savoir, nous voulons expliquer même les miracles. Mais si nous expliquons les miracles, ils ne seront plus les miracles. Et le fait de vouloir tout expliquer est souvent un obstacle à notre foi. L'autre raison, c'est que nous avons du mal à comprendre, parce que nous avons du mal à accepter les choses comme elles sont. Marthe et Marie avaient accueilli Jésus chez eux. Vous connaissez l'histoire, hein ? Elle est très intéressante. Alors, Marthe voulait révolutionner la société en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Moi, je suis seul à préparer à manger, là. » Alors, je ne sais pas si le Seigneur est venu avec les 12 ou avec les 70. Il est question des disciples. Il est fort possible qu'il y avait les 70. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, hein. Ah oui, il y avait du travail, hein. Bon, il fallait y aller au boulot, là. Bon. Alors, Jésus prêchait à la foule qui était là. Et puis voilà que Marie s'est assise au pied du Seigneur. Marie était à la bonne place au bon moment. Et Marthe s'excite. Elle veut changer les mentalités, elle veut révolutionner les idées reçues. Elle dit, mais vous voyez pas que j'ai tout à faire, et toi, Seigneur, ça te fait rien? Ça te dérange pas que je fasse tout le boulot toute seule? Marie a dit l'estomac plus tard, pour l'instant, je nourris mon âme. Et Jésus dira de Marie, c'est la part qui ne lui sera jamais ôtée. Alors Jésus est venu changer le monde en le sauvant de ses péchés. Les Juifs pensaient que Jésus, enfin, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu prennes le pouvoir, il faut que tu chasses les Romains. C'était pas ça, ils étaient déçus, hein. Jésus ne voulait pas, et on les comprend, hein, sous la domination romaine, c'était pas facile, hein. En plus, avec les péagés, les prélèvements d'impôts, etc., il y en a un qui s'en mettait plein les poches, et puis un jour, il y a sa tête qui n'allait pas bien, quoi. Il a dit, mais attends, ça va pas, ça. Il y a Jésus qui passe, là, aujourd'hui, il faut que je le voie absolument. C'est un petit homme, hein, Zachée. Et il dit, il faut que je voie cet homme, il faut que je voie Jésus. Et il monte sur l'arbre. Incroyable, hein. C'est fantastique comment Dieu travaille la conscience de l'homme. C'est extraordinaire. Alors Jésus est venu changer les cœurs, parce que tout passe par le cœur. Toute ma vie est orientée, toute ma vie est dirigée par la pensée de mon cœur. Mon doute, mes désirs, mes pensées, y compris les mauvaises. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, dit la Bible. Donc il faut réformer le cœur. Alors la croix, j'y viens. Deux significations, la croix. Symbole de mort et symbole de vie. Alors symbole de mort, la croix, c'est poutre verticale où je fais la paix avec Dieu. Une deuxième poutre horizontale, où je fais la croix, au niveau, la paix au niveau horizontal, avec les hommes, avec mon conjoint, mes enfants, avec mon patron, je fais la paix. Et puis, symbole de vie, de résurrection. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté là. Il est ressuscité. Et Paul parle de la prédication de la croix. Qu'est-ce que c'est la prédication de la croix? La prédication de la croix, c'est le changement de vie qui implique un retour sur soi-même, une repentance. Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Que l'homme soit sauvé par le pardon, c'est un miracle de Dieu. Les pharisiens cherchaient le royaume de Dieu avec les yeux. Jésus leur a dit, mais vous perdez votre temps, là. Le royaume de Dieu, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. Alors, il est dit là que est une folie pour ceux qui périssent. Il n'est pas question de là de le terme périr ne s'attribue pas au corps. Mais il est question là de ceux qui font naufrage concernant la foi. Alors il y a deux choses très importantes. C'est qu'il nous faut chercher la vie. Et on ne la trouve pas comme ça au coin de la rue. On peut la trouver par circonstance que Dieu a mis en place. Mais ce n'est pas automatique. Et puis quand on l'a trouvée, il faut tout donner. Alors le premier point, il faut chercher la vie. Il est dit que vous la trouverez si vous la cherchez de tout votre cœur. Et la Bible, d'une manière large et générale, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, vous dira la même chose. Il faut chercher. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bien. Dans 2 Chroniques 15, au verset 2, il est dit la chose suivante. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. J'ai apporté un livre là qui s'appelle le Sadhu Sundar Singh. Si vous voulez lire un témoignage éloquent d'un homme qui était un religieux, un sadhu qui a tout fait pour rencontrer Dieu. Il marchait pieds nus dans la neige, dans la montagne, il allait faire des pèlerinages. Il a fait énormément de choses. Je ne vais pas vous raconter tout le livre parce que vous ne le lirez plus. Mais si vous voulez le trouver, c'est facile à trouver, moi je peux vous en procurer, je n'ai pas de bénéfice dessus. Hein. Édition Emmaüs, c'est facile, hein. Jean-Marc tout de suite a mis une option en disant « tu me le prêtes ». Vous savez que Jean-Marc là, je vous le prête volontiers, je l'ai lu. Il y a des commentaires dedans, vous n'en tenez pas compte. Si vous voulez en commander, je peux vous les trouver, mais à Emmaüs vous les trouverez. Extraordinaire. Comment cet homme s'est converti au christianisme. Et il a été l'objet d'une grande bénédiction de réveil dans son pays, extraordinaire. On dit que, je vous raconte encore une histoire, si vous les aimez. On parle d'un homme d'un sage, qui était dans un pays d'Asie, je ne sais pas trop où. C'était un sage, un philosophe, un homme qui avait beaucoup réfléchi, et qui était là, assis au bord de l'eau, et qui méditait. Et voilà qu'on a envoyé un homme qui cherchait Dieu. Il a dit, tu cherches Dieu, tu vois cet homme là-bas, assis. C'est un homme très sage, il peut t'aider, il va t'indiquer. Alors il dit, bonjour.
Bonjour.
Il paraît que tu as des indications pour... tu peux me dire comment on peut trouver Dieu. Et l'autre se retourne, l'empoigne par les cheveux, lui trempe la tête dans l'eau quelques secondes. Et l'autre il ressort, il dit, tu es fou, tu as failli me noyer. Il a dit, quand tu chercheras Dieu, avec la même intensité que tu as cherché l'air sous l'eau, tu le rencontreras. Je vous livre l'histoire telle qu'elle est. Voilà. Donc, cherchons la vie. Et puis, le deuxième point, j'ai dit qu'il faut tout donner. Et ne rien garder pour soi. Vous savez, on est humain. Notre vie privée, notre vie personnelle, notre vie intime. Juste en passant, je vous donne encore une indication. Dans Luc 2, vous verrez que Siméon, lorsqu'il accueille Marie et Joseph, l'enfant, au temple, lorsqu'il a 8 jours, il l'amène au temple pour le faire circoncire selon la loi juive. Siméon savait qu'il verrait le salut de Dieu avant de mourir. Il l'a rencontré, il a dit « Après, je peux mourir en paix ». Il a dit « À toi, femme, une épée te transpercera l'âme ». Je ne sais pas si Marie a bien mesuré tout ce que cela voulait dire, elle l'a vu après. Mais il a dit « Cet enfant est venu pour jeter la contradiction ». Et il est venu pour révéler la pensée de beaucoup de cœurs. J'ai médité cela très longtemps. Il est venu pour révéler la pensée de beaucoup de cœurs. Pourquoi pas tous les cœurs ? Mystère qui appartient à Dieu. Alors Romains 2, 4 nous dit, « Méprises-tu les richesses de sa bonté ? Ne vois-tu pas que la bonté de Dieu et son amour te poussent à la repentance ? » Ça, je disais qu'il faut tout donner et ne rien garder pour soi. Et il nous sera fait en fonction de notre foi. On raconte l'histoire d'un homme qui... C'est la dernière. J'ai beaucoup aimé cette histoire. D'un homme qui mendie dans un pays asiatique. Et il en a assez de toujours manger son riz. Il a un bol de riz. Toujours du riz, du riz. Je voudrais un peu plus. Et il est mendiant. Et il apprend que le roi... Oui, je crois que c'est le roi. Oui, le roi va passer. Il va traverser la ville. Alors il se met en évidence, il y va passer, il va me donner de l'argent. Et je vais tendre la main. Et voilà que le roi passe. Il était avec un carrosse, il avait une suite avec lui. Et il voit ce mendiant, il s'arrête. Et il tend la main, le mendiant. Et le roi s'avance. Il dit, apportez le sac d'or. Alors on sort un sac d'or, on le pose là. Et puis le roi dit au mendiant, donne-moi ton bol de riz. Alors le mendiant rumine, il dit, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est pas un roi, c'est un prince, pardon. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce prince? Attends, il est richissime et il veut mon riz? Non, il se moque de moi ou quoi? Attends, ouais, allez, 3 grains, ça suffit. Alors il prend 3 grains de riz dans sa main, il les pose dans la main du prince. Le prince ouvre le sac, il prend 3 pièces d'argent, il lui donne et il s'en va. Moralité de l'histoire, il est dit que cet homme, jusqu'à la fin de ses jours, s'est demandé s'il avait donné tout son riz, aurait-il reçu tout le sac d'or. Et je trouve cette histoire très intéressante. Parce que Dieu est ainsi. Il faut tout lui donner. Ça coûte rien. Ah, mais ça coûte. Ça coûte quelque chose. Alors, la mort physique est inévitable, la mort spirituelle est évitable. C'est une grande catastrophe, on peut l'éviter. Mais Dieu ne veut que des volontaires, ne force personne. Je donne encore quelques citations, Romains 6, et puis je termine, il est 13h07. Romains 6, 11. Considérez-vous donc comme mort au péché, mais comme vivant par Dieu en Jésus-Christ. Je trouve que c'est merveilleux. Et le verset 23 du même chapitre de Romains 6 dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Le fils perdu, vous avez tous lu, hein, dans Luc 12. Le fils perdu qui revient, après avoir gaspillé l'argent de l'héritage, il a été avec les prostituées, et même certaines études disent même pire. Il s'est vautré dans la boue, c'était quelque chose d'horrible. Et puis quand il n'avait plus rien à manger, il s'est dit, mais attends, c'est ma faute si je suis là. Il est revenu. Lisez le texte pour voir, pour vous montrer l'amour du Père. Et on peut comparer l'amour de ce père, du fils prodigue, à l'amour de Dieu. Il n'a pas dit, ah, ça y est, t'arrives, ben c'est le moment, hein. Pas du tout, il l'a pris dans ses bras. Et lorsque le fils a dit, Père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Après qu'il y eut cette reconnaissance du mal qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Un immense festin dans la maison du Père. À peine symbolique, hein. C'est merveilleux. Je trouve que c'est beau. Et le Père, avant que le Fils ne revienne, le Père était spirituel. Il a dit, mon Fils était mort, et il est revenu à la vie. Et il y eut un grand festin. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Tout pouvoir. Mais nous aimons garder le pouvoir, n'est-ce pas? Nous aimons garder le pouvoir. Je parle aux chrétiens, hein. On aime garder le pouvoir, on fait selon son savoir, selon ce qu'on a appris, selon ses traditions. Et, non, je dis qu'il faut que Jésus brille, que Dieu brille dans nos vies, quelle que soit l'appellation de notre église, qu'elle soit ceci, cela, c'est pas ça le problème. Dieu ne demandera pas lorsque tu vas arriver, tu étais protestant, catholique, méthodiste, qu'est-ce que tu étais pas? Alors, hein, l'étiquette sur la bouteille, le Seigneur n'en a rien à faire, il regarde l'intérieur. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai été pour les autres? Qu'est-ce qu'on pourra dire de moi? Vous savez, un grand prédicateur un jour a fait une grande conférence, cette histoire me vient. Une grande conférence, il y avait un monde. Un homme éloquent, pas comme moi, hein, misérable. Non, un homme de rang. Et toute la multitude était pendue à ses lèvres. Et lorsque la conférence a été terminée, les dames étaient ensemble. Elles ont parlé. L'une d'elles se hasarde à dire à l'épouse du prédicateur « Vous en avez de la chance d'avoir un tel mari. » Et la dame de répondre « Vous ne le voyez pas à la maison. Ouais. » On peut faire du cirque, hein? Non, on peut faire du cinéma. C'est facile de faire du cinéma. Mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que mon conjoint peut dire de moi à la maison? Qu'est-ce que mes enfants peuvent dire de moi publiquement? C'est ça la question. Rien n'est impossible à Dieu. Alors Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Il faut s'abandonner à Dieu avec confiance et espérance. Je vous renvoie à quelque chose de merveilleux qu'on n'a pas le temps de lire. Hébreux 11, les héros de la foi, vous le lirez. Mais c'est merveilleux, vous voyez Rab, une prostituée, qui entre dans la généalogie de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial? Ben, j'imagine que sur le champ, elle a arrêté la prostitution. Sur le champ, elle a accueilli les espions de Canaan. Et à cause de cela, elle entre dans la généalogie de Jésus parce qu'elle devient, devient descendante de David. Extraordinaire. Et sa famille a été protégée avec elle. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. Alors je finis. Plus on retient la vie, plus on la perd. Je compare la vie à un glaçon. Vous prenez un glaçon dans votre main, plus vous le serrez, plus il va fondre. Mais ma vie, il faut que je la donne au Seigneur. Et plus je la lui donne, plus il me la rend. Plus il me la rend belle. Moïse, homme fort patient, avec un peuple, les Hébreux dans le désert, pas facile, hein. Pas facile Moïse, mais il a eu une médaille, je pense. Avec un peuple difficile et rebelle. Et dans Deutéronome 30, verset 19, il dit, « J'en prends un témoin aujourd'hui, contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et ta postérité. C'est très important. Nous avons besoin de révélations divines. Il est dit que sans révélation, mon peuple meurt. Et nous devons briller comme des lumières là où nous sommes. Merci beaucoup.
Des questions ? Vous avez parlé de la métaphore de la de l'eau de la parole. Qu'est-ce que vous entendez à travers cette métaphore ? C'est la première fois que j'entends cette correspondance de l'eau et de la parole. Et vous avez dit l'esprit, mais vous n'avez pas fait la corrélation avec un autre mot.
Là, vous m'en demandez beaucoup, mais je vais essayer de répondre. Je crois que c'est dans Éphésiens, il doit y avoir un passage où Paul parle de l'eau de la parole. Il faudrait chercher, je n'ai pas eu le temps de le regarder. La purification de l'eau est souvent notée dans les évangiles. D'une eau pure, il est question d'une eau pure, mais c'est toujours une allusion à la parole elle-même. Et au niveau de l'esprit...
La Samaritaine
peut-être, oui, je n'ai pas vérifié. Et puis au niveau de l'esprit, bon ben l'Esprit Saint, hein, c'est l'Esprit Saint. C'est un Esprit Saint. Je ne sais pas si on peut commenter l'Esprit Saint, c'est difficile d'expliquer un miracle. Père, Fils et Esprit en même temps, c'est très difficile. Mais là aussi, cela appelle non pas à notre raison, mais à notre foi. Parce que on ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse séparer, à moins que Charlotte ou, Gérard, ou Jean-Marc veuillent y répondre, mais je ne pense pas qu'on puisse séparer les trois, puisque les trois sont un. Et cela dépasse notre entendement, notre compréhension et même les études bibliques ou philosophiques. Ai-je répondu ? Merci.
Merci Monsieur Boquet. J'ai appris beaucoup de choses n'étant pas chrétienne. Et je voulais rebondir sur l'amour. J'entends beaucoup parler d'amour dans le christianisme. Et puis, j'entends aussi parfois que dans le monde juif, il n'y a pas d'amour. Je voulais juste faire une petite anecdote. La Torah, le premier testament, commence par un beit qui se dit veit également. Il se termine par un el, le lamed d'Israël. Lorsqu'on met les lettres à l'envers, ça fait lev. Et lev veut dire amour. Et la Torah est tout amour. Alors Jésus était un juif de toute façon. Merci.
Je crois qu'au sujet de l'amour, c'est évident que Jésus était amour et qu'il était juif. La Bible nous parle beaucoup de l'amour. Vous lirez en Corinthiens 13. Dans Corinthiens 13, Paul dit « Je peux avoir toutes les qualités, je peux avoir beaucoup de choses. Ce n'est pas l'amour, je ne suis rien. Je résonne comme une cymbale. Qu'est-ce que c'est qu'une cymbale ? C'est vide. Comme une coquille de noix, il n'y a rien à l'intérieur. Et si je n'ai pas l'amour ? Mais il décrit aussi l'amour en Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour ne se vante pas. L'amour croit tout, etc., etc. Je l'ai lu de nombreuses fois à genoux. Et je crois que Jean va aussi dire à quoi vous allez les reconnaître. Vous allez les reconnaître à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Parce que l'amour implique une dimension que l'amour, c'est pas juste quelque chose d'éphémère ou quelque chose qui est un peu fumeux sur un nuage. Je t'aime mon frère, ma soeur. Non, c'est plus que ça. L'amour implique, si j'aime mon enfant, si mon enfant m'aime, je prends l'exemple de mon fils, parce qu'il n'est pas là. Lorsqu'on revient du ski ensemble, que la voiture est sale, ou nous avons été, Jean-Marc a dit, je faisais du bois la semaine dernière, on a fait les bûcherons, on est revenu, il y avait les tronçonneuses dans la voiture était sale, on était fatigué, on est rentré le soir. J'ai rien demandé à mon fils. Il a pris l'aspirateur. Vous voyez ? C'est un amour pratique. Hein ? Est-ce que on peut décevoir quelqu'un qu'on aime ? Je ne pense pas. Si j'aime mon conjoint, si j'aime mon épouse, je connais ses goûts. Je sais de quoi elle a besoin. Je sais de quoi est faite sa pensée, ses aspirations. Hein ? Et vice-versa, les enfants, c'est la même chose. Et la même chose de la part des parents vis-à-vis des enfants. Comment je gagne ? Vous savez, il faut avoir un certain nombre de clés pour gagner le cœur d'un enfant. Et quand vous gagnez un enfant d'une manière, vous ne gagnez pas forcément l'autre de la même manière. Parce que les cœurs sont tous différents. Il n'y a pas de photocopie. Et l'amour est vraiment quelque chose qui se traduit par des actes quotidiens. Et je crois que c'est une dimension... Enfin, 1 Corinthiens 13 m'a beaucoup, beaucoup appris. Et je crois que c'est vraiment important.
Merci.
Je crois que la première fois...
Non.
Attends-moi.
Et tout à l'heure, on parlait de l'amour qui ne serait pas présent dans l'Ancien Testament. Au moment de la création, les premiers mots qui nous sont révélés de Dieu, c'est « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », alors que pour tous les autres éléments de la création, que la terre soit, que la lumière soit, ce sont des ordres. Mais pour ce qui est de l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je crois qu'il n'y a pas plus belle définition de l'amour.
Une autre question ? Pour laisser encore un petit peu de temps pour réfléchir, moi j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai appris surtout que j'amènerai plus ma femme au temple pour que personne ne risque de lui demander comment je suis à la maison. Est-ce que quelqu'un a une question pour André ?
Oui, c'est pas une question directe. Comment expliquer, d'après l'avis de tous ceux qui connaissent la mentalité de l'Orient, l'Extrême-Orient, qui donc est très influencé par le bouddhisme, qui est peut-être d'ailleurs plus une philosophie qu'une religion, qu'en général, on a beaucoup moins peur de la mort qu'en Occident de tradition chrétienne. Et j'emploie volontairement le terme tradition parce que je pense personnellement que le nombre de vrais croyants est assez limité. Merci.
Je crois que vous avez raison, que le nombre de vrais croyants est limité. Vous savez, quand Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis les frères. Alors je pense que la conversion, réellement la conversion, est une étape, et qu'au fur et à mesure de cette étape, on apprend des choses. Vous savez, quand la terre est sèche, plusieurs rosées successives peuvent lui faire du bien, comme un immense orage. Et Dieu travaille aussi de cette façon. Il peut venir chez quelqu'un subitement pour faire grandir sa foi, pour changer sa vie. Et il peut le faire petit à petit, comme Dieu l'a décidé. Ce n'est pas il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de photocopie. Certaines personnes pensent que telle autre personne a été bénie de telle manière, ben je vais faire la même chose. Ça ne marche pas. Moi, j'ai vu des gens venir confesser leurs péchés par mimétisme. Pas de fait. J'ai vu des gens aller restituer des vols par mimétisme. Parce que l'autre l'a fait, je vais le faire aussi. C'était pas une conviction. Et la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et il n'y a pas eu d'effet. Il n'y a pas eu d'effet du tout. Je connais une personne qui... Moi, je suis retourné voir mon patron. Pas parce qu'on me l'a dit. Quand je me suis converti, j'avais 38 ans. Je suis retourné voir mon patron, que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et mon instituteur, qui est passé chez moi la semaine dernière, qui a 87 ans, et nous sommes de très très bons amis, et j'ai eu la conviction de retourner voir mon patron pour lui dire, ben voilà, j'ai volé telle chose, je voudrais les rendre. Ben, il était très étonné, mais il m'a dit, je sais qu'il y a un général parmi nous, là où est-ce qu'il est, monsieur notre ami général, je suis retourné à ma caserne pour retrouver un capitaine pour lui dire ben voilà ce que j'ai pris et je souhaiterais le rendre. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, monsieur, votre honnêteté vous honore. Hein? Bon, j'ai trouvé que c'était beau, quoi. Hein? Bien. Alors Dieu travaille à sa vitesse, mais il faut que nous soyons aussi réceptifs et qu'on ne se laisse pas emporter par des idées reçues, mais qu'on soit, comme j'ai dit de l'apôtre Jean, disponible et disposé. Seigneur, quand tu veux, comme tu veux. Et ça, c'est une autre affaire. Donc, qu'il mette devant nous la vie ou la mort, eh bien, nous le prenons comme venant de sa main. Nous ne le souhaitons pas, mais la Bible nous dit que aucun cheveu de notre tête tombe sans qu'il soit au courant. Donc, voyez-vous, il ne faut pas s'étonner. Voilà.
Charlotte.
Alors, merci André pour tout ce que tu nous as apporté. Je voudrais revenir sur deux choses. La première, l'histoire de ce mendiant qui donne 3 grains de riz et puis le prince qui lui donne 3 pièces d'or. Alors oui, et en même temps, moi je crois aussi que parfois, sans donner un seul grain, le sac entier nous est donné aussi. Voilà, donc, on voit Jésus, parfois dans la Bible, va guérir physiquement et spirituellement des gens qui n'ont rien demandé. Hein. Il n'y a eu aucune parole, voilà. Donc, je crois que les deux sont là. Hein. Il y a en même temps, on donne et on reçoit, et parfois sans rien donner, la grâce, hein, tout nous est donné gratuitement. Et du coup, j'en viens à la deuxième remarque. Tu disais, j'ai beaucoup apprécié cette image, il faut briller là où nous sommes. L'étiquette n'a pas d'importance. Et du coup, ça rejoint aussi ça, c'est que nous avons chacun une vision partielle. Et chacun dans nos églises, nous mettons des accents sur des choses un petit peu différentes, mais qui sont chacun une part de cette vérité qui nous fait vivre. Et voilà, donc je crois que ça c'est aussi la richesse de ces rencontres, c'est qu'on donne chacun un éclairage que l'on a particulier, qui n'est pas mieux ou moins bien que celui du voisin, mais qui fait partie de cette vie commune qui nous anime tous.
Je crois que si on veut faire un beau bouquet de fleurs, il ne faut pas mettre que des narcisses ou des tulipes. Et je crois que la richesse des couleurs embellit le bouquet et la pièce.
Je suis en train de lire un livre de Théodore Monod et il s'étonne que la bonté de l'homme n'aille pas jusqu'aux animaux. Tous les êtres vivants devraient être aimés et en général, les bêtes ne sont pas aimées. Il y a des bêtes qui ne sont pas aimées, mais il y a des chiens, ça m'énerve naturellement.
Oui, je pense qu'il faut avoir du discernement dans cette affaire. L'homme a sa place, l'animal a aussi sa place. Et on doit lui accorder sa place entière, ni plus ni moins. Mais il a été dit dans la création que les animaux étaient à disposition de l'homme. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui martyrisent les animaux, les abandonnent pour partir en vacances. Je suis complètement d'accord avec vous.
Mais à la disposition de l'homme, ça veut dire que l'homme est le maître de la création. Voilà ce que dit Théodore.
Il est responsable. Il est aussi, si j'ai un animal, je suis responsable de le soigner correctement ou pas. J'ai une responsabilité, j'ai aussi une conscience vis-à-vis de cela.
L'homme est un animal.
Oh, ça, là je ne réponds pas.
Vous avez dit « la mort de Jésus-Christ génère la vie ». Donc je me place quand même dans le contexte chrétien, naturellement. Et je voudrais faire remarquer que pour les chrétiens, personne ne peut leur prendre la vie. Hein, parce que quoi qu'il arrive, nous l'avons. Ça c'est pas quelque chose d'extérieur. Comme un homme libre, même en prison, reste libre. Voilà. Donc nous restons vivants, quoi qu'il arrive. Voilà.
J'ai dit que Jésus génère la vie, j'ai plus fait allusion à la vie spirituelle qu'à la vie physique. Et quand le sacrifice de Jésus fait que le voile s'ouvre, c'est là où il génère la vie de l'âme. Et je me suis fait comprendre.
Comme la liberté, personne ne peut la prendre, la vie, personne ne peut la prendre.
Quelle vous la donnez ? Bien oui, elle vient de lui. Hein. Donc lui, il la donne et il la reprend quand il veut.
Eh bien, merci André, tu nous as richement nourri aujourd'hui. Voilà, la parole est revenue. Alors, bien sûr, je commençais par un merci pour André. Ne vous sauvez pas, mesdames, ne vous sauvez pas. Parce que tout de suite derrière le merci pour André, je vais changer l'ordre, je voulais mettre un merci pour toutes les Marthes qui nous ont permis d'être des Maries aujourd'hui. Alors elles ne sont pas toutes là, hein, je vous rassure, mais c'était quand même bien que vous en voyiez quelques-unes. Pour vous donner une idée, parce que peut-être que Charlotte et moi sommes les personnes les plus visibles de cette semaine thématique, mais dites-vous bien que rien que pour la cuisine, il y a 29 personnes régulièrement qui s'occupent de vous fournir de nous fournir les plats. Et il y en a encore beaucoup d'autres qui interviennent plus ponctuellement pour la vaisselle, le nettoyage, etc. Et c'est pas tout. Oui, s'il vous plaît, merci. J'ose pas ajouter que c'est sûrement une des raisons du succès des études bibliques. Mais je voudrais ajouter que, en plus de cette équipe, vous avez aussi des gens qu'on ne voit pas, qui installent l'expo Bible, qui la désinstallent, qui aident à installer la sono, à la monter, à la descendre pour la conférence, à la remonter. Enfin, voilà, il y a tout un petit travail souterrain qui fait que notre église est au travail, et c'est un des buts de cette semaine thématique, de faire travailler les membres de notre église. Et puis, c'était pas l'ordre que j'avais choisi, et c'est dommage que vous soyez en dernier. Mais comme on dit toujours, les derniers seront les premiers. Je voulais vous remercier parce que le succès de ces études bibliques, c'est vous. C'est vous, par votre variété. Hein, on disait que pour faire un beau bouquet, il faut associer des fleurs différentes. Par votre participation et puis par, encore une fois, j'emploie le mot confiance parce que vous n'hésitez pas à vous prononcer et à dire les questions qui vous traversent le cœur ou qui vous traversent l'esprit. Donc merci, et puis nous vivons dans l'espérance, en tout cas les chrétiens, mais on peut déjà aussi parler d'espoir en disant ben, j'espère vous revoir l'année prochaine. Il reste encore le culte de dimanche à 10h, qui est un culte pour les enfants, avec le pasteur Charlotte Gérard et le pasteur Philippe Soriano et son épouse Martine. Merci, alors maintenant, bon dessert et bon café.
Allez,